Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Une émission préparée par Fanny Richer, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Kieran Gessel. Réalisée par Jean-Christophe Francis. À la prise de son, Élise Leu. L'Académie de Poitiers aurait sans doute dû y réfléchir à deux fois avant de prendre ce genre d'initiative. Un manuel de prévention de la radicalisation en milieu scolaire a été envoyé au chef d'établissement. Intention louable, mais contenu problématique, puisque comme vient de le révéler Mediapart, on y trouve une liste de signes extérieurs censés donner l'alerte, comme par exemple la barbe longue non taillée, la moustache rasée, les jambes couvertes jusqu'à la cheville ou encore l'habillement musulman. L'existence d'un tel document témoigne au moins d'une prise de conscience, la nécessité d'engager des actions de prévention pour empêcher la radicalisation d'un nombre toujours plus important de jeunes Français tentés par l'expérience de la guerre au nom de l'islam en Syrie ou en Irak. D'après les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, plus d'un millier sont impliqués dans des filières djihadistes, dont 380 actuellement dans les zones de combat. Mais la prévention seule ne suffit pas, car à côté de ceux qui ne sont pas encore partis, il y a aussi tous ceux qui reviennent, 215 à ce jour, certains encore dangereux, d'autres traumatisés par une violence à laquelle ils ne s'attendaient pas. Alors que faire de tout cela ? À entendre les réactions de ces derniers jours, on mesure à quel point les décideurs politiques sont pour l'instant désœuvrés. Il y est question de déchéance de nationalité, d'enfermement à part, de déradicalisation, sans qu'on sache très bien ce que cela signifie. Alors comment gérer ces individus aux profils multiples ? Les djihadistes français sont-ils récupérables ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, je reçois ce soir David Benichou. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes juge antiterroriste, vice-président en charge du pôle antiterroriste au tribunal de Paris. Pour discuter avec vous ce soir, Farid Abdelkrim. Bonsoir.
Bonsoir.
Écrivain, comédien, vous jouez des spectacles. Vous êtes l'ancien président des Jeunes Musulmans de France. Vous êtes aussi ancien membre de l'UOIF, Union des Organisations Islamiques de France. Vous publierez en février prochain aux éditions Les Points sur les I, Pourquoi j'ai cessé d'être islamiste. Notre troisième invité ce soir, Jean-Luc Marais. Bonsoir.
Bonsoir.
Maître de recherche à la FRS, Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous avez co-signé en 2007 aux éditions des Équateurs avec Michel Guérin, Histoire de djihad, et puis vous avez publié il y a quelques jours de cela, c'était en fin de semaine dernière dans le journal Le Monde, une tribune intitulée « Les djihadistes, enfants perdus d'une république qui se délite ». Notre quatrième et dernière invitée se trouve en duplex des studios de France Bleu à Orléans, il s'agit de Roland Coutenceau. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychiatre, psychanalyste, spécialisé en victimologie. Je rappellerai simplement le titre de votre dernier ouvrage publié cette année chez Michel Lafon. Faut-il être normal ? Alors avec vous quatre ce soir, je voudrais donc qu'on parle de ces djihadistes, à la fois ceux qui sont déjà revenus en France et puis peut-être pour commencer ceux qui y sont encore. La question se pose de savoir ce qu'il faut envisager pour leur éventuel retour. Mais cet éventuel retour est-il envisageable ? Il y a eu un certain nombre de prises de parole politiques ces derniers temps. Alors, je citerai seulement quelques-uns. Marine Le Pen pour le FN, Éric Ciotti pour l'UMP, Jean-Christophe Lagarde pour l'UDI. C'est plutôt des paroles de droite, hein, en l'occurrence, qui se disent favorables à une déchéance de nationalité, ce qui permettrait d'écarter la question du retour de ces combattants. J'aimerais d'abord savoir ce que vous en pensez tous les quatre, à commencer peut-être par vous, Farid Abdelkrim.
Ce que j'en pense, sans être un spécialiste de la question, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas forcément l'idée la plus géniale pour essayer de comprendre ce qui a amené ces jeunes gens à aller en Syrie et pourquoi certains ont choisi de revenir, quelles sont leurs motivations. Moi, je pense et je dis toujours que ceux qui sont partis ont été endoctrinés parce qu'ils étaient endoctrinables. Ceux qui reviendront pourront être récupérés à condition qu'ils soient récupérables. Et c'est ce qui me semble, moi, plutôt intéressant, c'est de travailler sur cette question-là, à savoir, ceux qui reviennent, il y a vraiment beaucoup à faire pour essayer de comprendre quelle a été leur parcours, quels ont été les mécanismes qui les ont amenés à un moment donné à quitter leur pays, c'est-à-dire la France, puisqu'il s'agit de citoyens français.
Plutôt que on ne veut pas qu'ils reviennent. Alors, il faut dire d'ailleurs qu'il y a des limites juridiques à ce genre de disposition, David Benichou. D'abord, il faut que l'intéressé, pour qu'il soit déchu de sa nationalité, il faut qu'il soit binational, qu'il en ait une autre. Et puis, il y a aussi des questions de délai. Il faut que les faits qui lui sont reprochés soient produits dans les 10 ans à compter de l'acquisition de la nationalité. Est-ce que, de ce que vous savez, vous, aujourd'hui, de par vos fonctions du gentil terroriste, David Benichou, est-ce que vous savez si c'est une option qui est sérieusement envisagée, voire peut-être appliquée dans un certain nombre de pays, c'est-à-dire on prononce la déchéance de nationalité et finalement on renvoie la responsabilité vers d'autres pays?
Alors en fait, ce qui est sûr, c'est que cette question a été débattue à l'occasion du débat récent sur la loi pour améliorer la lutte antiterroriste. Elle a été débattue, écartée par le gouvernement, mais elle va revenir sans cesse dans le débat et elle est plus particulièrement axée sur les binationaux, c'est-à-dire des citoyens qui sont français mais qui ont aussi une autre nationalité et qui vont utiliser cette autre nationalité pour sortir en fraude du territoire national, puisqu'on peut leur retirer leur papier français, mais libre à elles de se faire délivrer des papiers étrangers pour pouvoir à nouveau circuler librement et revenir par différents itinéraires sur le territoire national. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait d'une personne qui va utiliser une autre nationalité pour se déplacer en fraude de la nationalité française et ainsi tirer tous les bénéfices de l'une pour, en quelque sorte, mépriser les droits et les obligations de l'autre.
Ça, c'est l'approche juridique. Est-ce qu'il y a aussi une approche, une réponse morale à ce projet, Jean-Luc Marais ?
Morale, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des observations scientifiques, des observations de recherche qui ont été faites sur la dangerosité de djihadistes qui sont revenus de terres de djihad précédentes, par exemple l'Afghanistan ou l'Irak ou la Tchétchénie, et qui sont revenus dans des pays d'Europe. Et il y a une partie d'entre eux, variable selon les terres de djihad et selon l'endoctrinement, qui retournent dans leur famille et qui considèrent leur pays d'origine, la France, l'Allemagne, etc., comme des terres où on ne commet pas de violence et où on reste à peu près tranquille et on retrouve les valeurs intégratives de la famille. Par contre, il y en a d'autres qui sont tellement allés loin pour différentes raisons dans la violence qui me paraissent difficilement récupérables. Et il y en a d'autres enfin, mais notre collègue psychiatre le saurait mieux le dire que moi, qui dont les cas relèvent de la psychiatrie.
Alors justement, j'aimerais qu'on se tourne à présent auprès de Roland Coutonceau, psychiatre et psychanalyste. Dire à quelqu'un, on vous déchoit de votre nationalité, en gros, on vous considère comme ne faisant plus partie de la communauté nationale, quand bien même, ce qui n'est pas rien bien entendu, hein, quand bien même les actes sont extrêmement répréhensibles. Qu'est-ce qu'en pense justement le psychiatre que vous êtes, Roland Coutonceau ?
Alors, bien sûr, moi, en tant que citoyen, j'ai un avis, mais c'est pas, je ne vais pas le dire en tant que tel. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est oui, sur ce nombre qui est à la fois important et en même temps qui n'est pas si important que ça. Mais dans la masse de tous ces jeunes qui sont allés en Syrie, est-ce que, effectivement, si je le regarde en tant que psychiatre, il y a forcément la même intensité terroriste, un peu pour le dire de façon de tout le monde à comprendre. Alors, d'abord, il faut bien comprendre qu'il y a une première chose qui m'intéresse, c'est comment ça peut arriver. C'est la question qu'on s'est posée sur cet homme qui finalement vivait au sein du bocage normand. Et donc, on voit effectivement qu'il y a le facteur de personnalité, il y a souvent un moment de flottement dans la trajectoire biographique où on est entre deux sens de sa vie. Il y a aussi la très forte séduction des idéologies extrémistes. Et puis, bien sûr, il faut une sensibilisation qui peut se faire par une rencontre, mais aujourd'hui, par cet outil à la fois merveilleux et diabolique qu'est Internet. Alors, sur le plan de la personnalité, vous l'avez vu avec cette jeune fille, vous savez, cette jeune fille, on a communiqué récemment, qui voulait partir en Syrie, puis qui a rencontré un copain à hauteur de Lyon qui l'a un peu recadré. Et donc, de temps en temps, ce désir de ceux qui partent en Syrie, c'est assez floconneux. Ce sont des personnalités quand même assez, je dirais, flou. Et là, effectivement, on peut penser que ceux-là ne sont pas très dangereux. C'est comme un espèce de petit tilt imaginatif.
Est-ce que ça veut dire, par exemple, pour vous, Roland Coutonceau, qu'on ne peut pas traiter ce problème de manière globale parce que chaque cas, finalement, est différent, est un cas particulier ?
Oui, voilà, c'est-à-dire dans le sens de votre question, si on me demandait mon avis, je dirais qu'il faut que des gens un peu spécialisés, c'est pas forcément des psychiatres, mesurent le degré d'intensité, un peu d'intoxication à l'idéologie extrémiste. Et bien sûr, au fond, mon regard de psychiatre, c'est qu'on pourrait sûrement avoir des sous-groupes, des sujets dont les yeux ont été un peu dessillés, un petit peu quand ils sont allés en Syrie, donc qui vont venir, mais en ayant désinvesti finalement l'idéologie, ceux qui au fond vont revenir avec un peu d'hésitation, mais sont pas des mordus, sont pas des jusqu'au boutistes. Ensuite, plus dangereux, des sujets qui pourraient revenir pour être des bombes ambulantes, pour effectivement appliquer un peu, être des explosifs vivants à l'intérieur effectivement de notre pays. Et puis ceux qui sont allés tellement loin qu'on peut être ceux qui ont décapité un peu notamment cet Américain, qui eux sans doute se projettent dans la mort au cœur même effectivement de l'État islamique.
Jean-Luc Marais.
Oui, expliquer pourquoi on devient radical violent, c'est très compliqué. Je pense même que le langage courant ne permet pas de l'expliquer. Mais j'ai été le modeste équipier de collègues chercheurs dans un programme qui s'appelle Impact et qui est financé par l'Union européenne. Et nous avons pendant 5 ans observé, Saphir et Impact de projet, et nous avons observé pendant 5 ans des djihadistes prisonniers ou borderline, si j'ose dire, et nous avons travaillé sur un protocole de recherche assez sophistiqué, et nous avons abouti à une sorte de représentation avec 200 variables. Donc pour nous, le processus de radicalisation, c'est 200 variables interactives qui sont parfois contradictoires les unes avec les autres, qui agissent d'une manière non linéaire. Et il y a, parmi ces variables, il y a des choses comme une difficulté à savoir gérer ses frustrations, avoir accès à un réseau social lui-même radical, avoir une certaine structure familiale qui prédispose à une affirmation, par exemple, du garçon de la famille. Il y a aussi cette observation anthropologique qu'on appelle la double aliénation, c'est-à-dire avoir une double identité culturelle, quitte à ce qu'aucune des deux soit satisfaisante. Il y a aussi la victimisation, etc. etc.
Alors, quand on connaît en plus les lois pour les lois des probabilités, on se rend compte qu'il y a une infinité quasiment de profils. Comment est-ce que la justice, David Benichou, fait pour aborder justement cette diversité? Est-ce que vous avez les moyens? Est-ce que vous avez la capacité justement de faire si ce n'est du cas par cas, mais enfin de travailler à partir de sous-groupes, comme le disait Roland Coutanceau?
Alors nous, on a une approche qui est cadrée par notre action judiciaire, par le code de procédure pénale. On a recours aux experts psychologues et psychiatres pour dresser des profils, mais ces profils vont être utiles à une chose, c'est permettre à la juridiction saisie d'apporter une peine adaptée à la personnalité de la personne qui leur sera présentée.
Mais ça veut dire que quel que soit, disons, le djihadisme, mettons, qui sera allé mener le combat en Irak ou en Syrie, au retour, il y a forcément le passage par une peine. Alors enfin, déjà, peut-être un enfermement. Alors, et la probabilité
d'une
peine.
Avant de les condamner, ils sont présumés innocents. Et il y a souvent un processus d'arrestation, de déferment devant l'institution judiciaire, de mise en examen, et à partir de là, soit de placement sous contrôle judiciaire, soit de placement en détention provisoire. À ce stade, déjà, intervient en quelque sorte une définition du profil de la personne à qui on a affaire. Et on est, d'un point de vue social, confronté à un grand défi. C'est, comme l'a dit Jean-Luc Marais, d'un côté, on a la complexité des facteurs de la radicalisation. Et de l'autre côté, comme l'a dit Farid Abdelkrim, on peut essayer de travailler sur ce qui est récupérable. La grande difficulté pour l'institution judiciaire, c'est qu'elle va devoir essayer de discerner les profils dangereux des profils qui seront en quelque sorte calmés par ce qu'ils ont vu là-bas. Avec les moyens judiciaires habituels, hein, c'est-à-dire pas toujours des moyens exceptionnels. Et il faut bien voir ce qui est à la clé. À la clé, c'est quoi? C'est la sécurité de nos concitoyens. Donc, on va jouer sur des variables qui auront des conséquences très, très réelles, c'est-à-dire des attentats qui seront commis ou pas.
Mais ce que vous dites, c'est que, évidemment, conformément au droit français, ils sont d'abord présumés innocents avant que d'être éventuellement condamnés. Être présumé innocent, est-ce que c'est quelque chose, pour vous, qui est important, Farid Abdelkrim, c'est-à-dire pour ces jeunes-là, de ne pas tous les considérer comme des coupables en puissance, mais peut-être de considérer certains, alors si ce n'est comme innocents, mais peut-être au-delà encore, c'est-à-dire comme des victimes?
Oui, ça me semble être très pertinent. Connaître les motivations avec précision qui ont poussé un individu à se rendre en Syrie, il y a ici un triple basculement. On nous rapporte que certains n'étaient pas musulmans et se sont convertis du jour au lendemain. Et pratiquement du jour au lendemain, le deuxième basculement arrive, ils s'en vont en Syrie. Et le troisième basculement, qui est lui bien entendu le plus dramatique, c'est le passage à la violence, à savoir donc tuer des innocents. Donc il y a ici nécessairement l'importance d'essayer de savoir ce qui motive un individu à partir là-bas. C'est-à-dire, on est tous fascinés ou en quête de fascination. Moi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes du fait de mon parcours associatif. Et ce besoin de fascination, s'il n'est pas rempli, dans le sens où ce doit être une fascination qui doit demeurer inaccessible. À partir du moment où la fascination devient accessible, c'est-à-dire que le jeune comprend qu'il peut être lui-même l'objet de sa propre fascination, on peut avoir comme ça des passages à l'acte. Et donc je pense qu'il est extrêmement important de faire preuve de prudence. Et même dans les discours que peuvent tenir certains politiques aujourd'hui et même certains dits chercheurs sur ce qui se passe là-bas, moi j'insiste beaucoup sur le fait qu'effectivement, des gens se sont peut-être fait leurrer, se sont fait manipuler. Et quand moi je dis que quelqu'un est manipulé, c'est qu'il était manipulable. Et moi j'aime travailler sur cette question du manipulable.
Alors si certains se sont fait leurrer, qu'ils sont partis peut-être avec des intentions louables, par exemple aller pour des raisons humanitaires ou alors aller combattre par exemple Bachar el-Assad, puisque c'était aussi, dans notre mesure, finalement, l'intention qu'avait la France, hein, c'est-à-dire d'aller lutter contre l'armée de Bachar el-Assad, en tout cas d'aider les rebelles syriens. Est-ce que ceux qui se sont fait leurrer, est-ce que ça voudrait dire, ensuite je repasserai la parole à Jean-Luc Marie, mais est-ce que ça voudrait dire pour vous, Farid Abdelkrim, que certains, en tout cas, doivent être récupérés, c'est-à-dire doivent être sauvés des griffes de l'État islamique et qu'il faut envisager les conditions de leur retour, je ne sais pas moi de quelle manière, ça peut être par exemple à travers une amnistie, c'est une question d'ailleurs que je poserai à David Benichou ensuite, mais est-ce que ça va jusque-là le raisonnement ?
Le raisonnement, si vous voulez, il repose sur quelque chose de très simple. Avant d'être des djihadistes, avant d'être des djihadistes musulmans, ce sont d'abord des citoyens français. Et le pays dans lequel nous vivons ne reconnaît pas les communautés, il reconnaît seulement les citoyens. Qu'ils soient d'origine algérienne, marocaine, tunisienne ou de quelque origine étrangère que ce soit, ils demeurent pour moi des citoyens français. S'ils sont partis, c'est qu'il y a eu problème. Ce problème doit être étudié dans sa globalité. Et il est important pour moi, effectivement, qu'on puisse envisager le retour d'un maximum d'entre eux et de faire en sorte de comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'on n'est pas à l'abri que ce genre de choses se reproduisent.
Jean-Luc Marais.
Oui, mais tout ça, à la fin, dépasse la science dans la mesure où la science observe et essaye d'expliquer. Et puis après, la société et le politique décident. Les citoyens décident. S'il y a dans 2 ans une élection présidentielle qui va dans un sens sécuritaire, la prévention sera soudainement démodée et nous parlerons de déchéance de la double nationalité, nous parlerons d'expulsion, nous parlerons d'enfermement, etc., etc. Alors que... On peut tout aussi bien dire que répression et prévention ne sont pas forcément aussi systématiquement opposables que ce qu'on entend ces jours-ci dans les médias ou parmi les politiques. Maintenant, il est certain que parmi les djihadistes, il y en a qui sont des victimes et qui sont partis là-bas. Par exemple, ces jeunes filles qui ont été radicalisées dans le secret de leur chambre individuelle, etc. Mais je dois quand même dire que la plupart du temps, sauf pour les cas qui relèvent d'une rationalité chancelante, la plupart de ces individus sont plutôt rationnels et on doit postuler qu'ils sont rationnels. Par conséquent, s'ils sont rationnels, ils sont plutôt responsables de leurs actes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, dans l'intérêt de notre société, les aider à réintégrer sincèrement la société.
Roland Coutanceau, on peut donner à certains, attribuer à certains le statut de victime ?
Non, en aucun cas. Par contre, je ferai une réflexion sur le comportement. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de 200 facteurs qui ont été étudiés pour expliquer un peu l'évolution de quelqu'un. Alors, souvent, dans les logiques du comportement, mais on n'a pas encore, bien sûr, les résultats, il y a dans ces 200 facteurs qu'on étudie, certains qui vont être plus pertinents que d'autres pour être un indicateur, comme un feu jaune clignotant, de la dangerosité persistante. Finalement, dans ces enfants de la République qui sont partis en Irak, il y en a certains, sans doute, qui, au fond, vont désinvestir cette idéologie qui a été un moment dans leur trajectoire. D'autres, effectivement, vont peut-être, et c'est là la difficulté, prétendre que finalement, ils y croient moins. Et je me rappelle, j'ai expertisé avec d'autres collègues des terroristes français après X années de prison. Donc, on voyait que finalement, leur rapport à la violence qui donne la mort était désinvesti. Par contre, ils avaient toujours une espèce de foi très forte dans leur idéologie. Alors, plus effectivement ce groupe est nombreux et plus il y a un certain nombre d'entre eux qui demanderaient ou qui reviendraient en France, il faut effectivement qu'on ait un mode de filtre. Alors, ce filtre, il peut être répressif et là, il n'y a pas de problème. On refuse qu'ils reviennent, au fond, contaminer la société française. Ou effectivement, on met un filtre et là, effectivement, il va falloir qu'il y ait une évaluation complexe au cas par cas pour voir la persistance ou pas de la dangerosité de ce sujet, de son idéologie dans son retour sur la République française. C'est pour ça que je l'ai vu que, je ne sais pas si ça se fait dans certains pays, effectivement, certains ont proposé un espèce de sas de décontamination ou des espaces d'observation pour voir si on pouvait, entre guillemets, déprogrammer un peu ces croyances un peu idéologiques extrémistes. Mais on voit là, effectivement, que la société va avoir un problème de se protéger ou pas. Et donc, soit elle va se protéger massivement sans évaluation au cas par cas, ou alors elle va faire une évaluation fine du comportement et finalement décrire des sous-groupes en considérant que certains peuvent être, entre guillemets, resociabilisables dans la République française.
Alors c'est ça, de décompression que vous évoquez, Roland Coutanceau. Il y a le cas, par exemple, au Danemark, et puis il y a le cas peut-être un petit peu plus surprenant en Arabie Saoudite, c'est ce qu'on apprenait il y a quelques jours à la lecture du site d'information Atlantico, où Antoine Basbous expliquait qu'en Arabie Saoudite, après la prison, les détenus, enfin en tout cas un certain nombre de détenus qui ont été radicalisés, transitent par une sorte de guest house où ensuite on leur offre une voiture, par exemple un travail, et le fait de pouvoir se réinsérer en formant une famille, ce qui leur permet d'abandonner la violence sans abandonner forcément leur foi, même si Antoine Basbous dit bon, ça marche pas à tous les coups. David Benichou.
Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que l'année dernière, à la même époque, j'étais justement en Arabie Saoudite pour interroger un djihadiste qui faisait partie de ce programme de réinsertion. Et donc, il avait bénéficié, en quelque sorte, d'une peine allégée et d'une forme, une forme de mansuétude, puisque le pardon s'accompagnait de certaines prestations, comme vous l'avez dit, voiture, travail, possible récompense. Et alors là, il y a quand même un grand paradoxe, c'est que dans notre société, ça reviendrait quelque part à récompenser les criminels les pires. Tout à l'heure, je parlais de présomption d'innocence. Il ne faut pas qu'il y ait méprise. Présomption d'innocence, c'est un principe de droit. Ça ne veut pas dire absence de culpabilité.
Bien sûr.
La loi doit passer, la peine doit être exécutée. Il n'y a pas de crimes qui ne doivent pas être punis. Et une fois que la peine a été exécutée, à partir de là, il faut faire en sorte que la personne, si elle le souhaite, puisse bénéficier de tous les dispositifs de réinsertion possible.
Sauf qu'on a l'impression quand même aujourd'hui que la question de la réinsertion, elle n'apparaît pas du tout dans le discours public.
Mais là, alors il faut aussi mettre à plat une idée préconçue, c'est que un certain nombre de nos djihadistes ne sont pas des personnes désinsérées. Ils ont travail, famille, ressources. Et du jour au lendemain, certains abandonnent tout pour partir avec femmes et enfants rejoindre l'État islamique. Alors, il y a peut-être eu au début, c'est-à-dire il y a 2 ans, un certain nombre de naïfs qui pensaient aller faire de l'aide humanitaire. Mais depuis à peu près 1 an, avec tout ce qu'on a comme accès sur les médias, on ne peut pas rejoindre la Syrie ou l'Irak en pouvant dire sérieusement qu'on va faire de l'aide humanitaire.
Jean-Luc Marie, ensuite à Farid Abdelkrim.
Nous avons mesuré qu'il y a à l'heure actuelle un peu moins de 200 programmes de déradicalisation à travers le monde. En Europe, il y a une surreprésentation de ces programmes dans des pays protestants. Je pense qu'il y a là des raisons culturelles. L'idée qu'on se corrige soi-même parce qu'on est protestant devant les autres et qu'on s'amende, etc. Mais ceci étant dit, aucun de ces programmes, on a des des évaluations fermes. Autrement dit, il y a une sorte de buzz politico-médiatique qui concourt à la création de ces programmes. Et souvent, ensuite, l'État ou les gens qui mènent ces programmes ne surcommuniquent pas nécessairement sur les résultats. Mais ce qui est sûr, c'est que ça marche dans certains. Il y a un programme en Angleterre qui s'appelle Chanel, qui marche plutôt pas mal. Il y a un programme en Allemagne aussi qui est plutôt pas mal. En revanche, il y a des gens qui passent à travers ces programmes, qui font sincèrement semblant d'être déradicalisés et qui retournent au djihad. Il y a un cas ou deux en Arabie Saoudite, il y en a au Yémen. Et puis enfin, il y a les cas de rechute. Quand les gens sortent de prison et qu'ils ont suivi un programme de déradicalisation, il semble qu'il y ait une durée optimale de suivi de ces ex-prisonniers qui soit de plusieurs mois, ceci afin de vérifier qu'ils sont dans un milieu, un environnement qui ne les entraîne pas à se radicaliser de nouveau. Donc c'est assez lourd et c'est fort. C'est même aussi un peu cher, il faut l'admettre. Et le résultat n'est pas garanti à 100%.
Est-ce que vous pensez que politiquement, aujourd'hui, la société française est prête à entendre ce discours sur les techniques de déradicalisation qui peuvent aussi passer par des réponses autres que répressives?
En 2002-2003, la réponse française à tous ces programmes émergents aux Pays-Bas, en Autriche, a été de dire non. La liberté de parole est absolue et tant que on peut dire ce qu'on veut, tant que ça n'est pas couvert par la législation antiterroriste. Depuis 2 ans, on a changé. Moi, en tant que citoyen, cette fois-ci pas en tant que chercheur, je pense qu'il y a un tel nombre de djihadistes produits en France. On a cité le chiffre officiel du ministère de l'Intérieur, mais ça, c'est les chiffres de ceux que le ministère de l'Intérieur a détectés. Il y a ceux qui n'ont pas été détectés et il y a aussi les citoyens français qui sont partis depuis d'autres pays que la France. Et personne n'est capable de me dire combien il y en a.
C'est vrai qu'en termes de statistiques, c'est très compliqué d'y voir clair aujourd'hui, parce qu'on a aussi alors des chiffres sur, on va dire, le profil de ces fameux djihadistes dont on dit qu'ils seraient majoritairement d'origine non musulmane. Je ne sais pas si la formulation est en très France. Claire. Alors en tout cas, c'est les observations du centre de prévention de la radicalisation qui est dirigé par Dounia Bouzard. Bon, ce sont des chiffres qui sont contactés. C'est un échantillon de toute manière qui est assez limité. Ça représente un peu plus d'une centaine de personnes. Sur en tout cas la question de la déradicalisation, Farid Abdelkrim. Je rappelle que vous avez été président des Jeunes Musulmans de France. Est-ce que c'est quelque chose qui veut dire, enfin, qui signifie quelque chose pour vous? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut déradicaliser? Ça voudrait dire quoi? Faire moins croire à cet islam-là par rapport à notre islam? Comment est-ce qu'on peut comprendre cette notion?
Non, il est certain que, pour faire un peu d'autocritique, et vous avez cité la parution de mon livre au mois de février prochain, il y a effectivement ici...
Pourquoi j'ai cessé d'être islamiste?
Tout à fait. Itinéraire au cœur de l'islam de France. Moi, il me semble important que face à ces événements qui sont tragiques pour certains d'entre eux, et en tout cas plus que pour d'autres, la communauté musulmane dans son ensemble vivant en France doit faire un travail d'autocritique sérieux, et notamment au niveau de la diffusion d'un certain discours, et pas forcément des discours les plus radicaux qui soient. Je pense, moi, entre autres, à des discours qui subliment certaines personnalités musulmanes, créant ainsi de la frustration chez des jeunes qui vivent ici aujourd'hui et qui, ne se sentant pas capables d'atteindre ce niveau-là, en tout cas dans leur imaginaire, eh bien, vont essayer de le faire d'une manière ou d'une autre. Ça peut être un des éléments. Alors, je ne sais pas s'il est dans les 200 facteurs évoqués tout à l'heure.
Mais il faudrait quoi? Il faut proposer un contre-discours à ceux qui reviennent, par exemple, en leur disant vous êtes trompés, l'islam, ça n'est pas ça. En tout cas, l'islam, nous, que nous promouvons, n'est pas celui-là. C'est comme ça que ça... Qu'est...
Alors, moi, pour ne pas qu'on me comprenne de travers, le discours global en France depuis des années est un discours qui n'a jamais appelé à la violence ou à des actes terroristes. Il n'en demeure pas moins que le discours qui est véhiculé est un discours qui parfois est déconnecté de la réalité, du contexte dans lequel nous vivons. Il y a une entrée sauvage dans les textes de l'islam qui font qu'effectivement, à un moment donné, on peut avoir des perturbations au niveau psychologique des individus qui va les amener à cela. Alors moi, j'appelle depuis un certain temps, et je pense que ça fera l'objet d'un ouvrage, j'appelle l'ensemble des orateurs, j'ai été un orateur pendant plus de 25 ans, et l'ensemble des imams de ce pays, à faire ce que l'on appelle, et ce que l'imam Tarek Oubrou appelle, de la théologie préventive, c'est-à-dire avoir un discours théologique qui va être complètement adapté à notre réalité et qui va permettre ainsi aux jeunes d'avoir une appréhension, en tout cas une pratique de l'islam qui se voudra en phase avec le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui me semble effectivement très important.
Sans comparer du tout votre parcours avec celui de ces jeunes d'aujourd'hui, mais est-ce que vous avez eu l'impression, Farid Abdelkrim, à un moment donné, de devoir passer vous aussi par une forme de déradicalisation? Et comment est-ce que ça s'est passé?
Oui, c'est... Moi, j'explique dans le livre, par exemple, que j'ai vécu un paradoxe. Étant jeune, j'ai été, mais il y a prescription aujourd'hui, un délinquant notoire qui a été fasciné par Antonio Montana, la figure très charismatique de Scarface, que tout le monde connaît. Et puis, cette fascination m'a amené à faire un certain nombre de choses. Je vais essayer d'être très rapide. Un jeune de notre quartier s'est pris une balle en plein cœur par un gendarme auxiliaire. Ça, c'était plus du cinéma, on était dans le réel. Et ça m'a amené peu à peu à me retourner vers les questions existentielles. Et je me suis converti à l'islam d'une certaine manière, parce que je n'ai pas été pratiquant. Et ma conversion m'a fait découvrir un autre homme qui s'appelle Hassan al-Banna, donc le fondateur du mouvement des frères musulmans. Et la fascination était quasiment identique. Donc j'avais 18 ans et j'avais ces deux personnages qui sont finalement aux antipodes l'un de l'autre. Mais c'est cette fascination-là. Et... de penser à un moment qu'on est le détenteur tout-puissant de la toute vérité absolue fait que vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Et je me suis retrouvé effectivement dans mes prêches, dans mes discours, dans ma prédication, à dire à un certain nombre de jeunes que nous détenions la vérité, que nous devions nous battre pour cela. Ce qui m'a permis de sortir de là, c'est d'abord la rencontre avec un certain nombre de personnes qui m'ont permis de mettre un peu d'eau dans mon vin ou un peu de vin dans mon eau, ça dépend où on se situe, hein. Et puis de prendre le temps de réfléchir et de maturer. L'âge aidant, j'en suis arrivé à passer de l'islamiste à l'humoriste. Avouez que c'est pas commun, mais cette expérience, je pense qu'il faut la partager et il faut pouvoir amener ces jeunes à prendre du recul et à leur dire, et je m'arrêterai là-dessus, que l'islam est d'abord une tradition spirituelle de l'intérieur. Et c'est parce que c'est tellement difficile à concrétiser qu'on va essayer de le concrétiser ailleurs, avec des artefacts et notamment avec un excès de normes, etc. etc. Je ne veux pas être trop long sur cette question-là.
Mais non, mais en tout cas, c'est intéressant, Farid Abdelkrim, ce que vous dites sur ce discours de vérité. Et je voudrais vous faire réagir là-dessus, Roland Coutenceau, parce que dans une interview toute récente que vous donniez au journal La Croix, vous disiez que ce qui était important, finalement, c'était peut-être pas, en tout cas, d'asséner face à ces gens qui sont de retour un discours de vérité, mais d'essayer de faire en sorte de leur instiller le doute, la réflexion, l'esprit critique. Vous dites c'est ça l'antidote, c'est le doute.
Ben oui, vous savez, ça fait penser un peu à ce qu'on a tenté un peu pour déprogrammer des gens qui étaient des membres de sectes et donc qui étaient extraits par leur famille ou qui commençaient un petit peu à avoir un peu d'esprit critique. Mais finalement, pour lier la question que vous me posez à quelque chose qui est au cœur, effectivement, de la criminologie, qui est l'évaluation de la dangerosité. Si ces jeunes qui reviennent, on peut les évaluer pendant un certain temps, ce que j'appelle moi l'évaluation longitudinale. Ça peut être aussi en milieu fermé ou en milieu carcéral. On va s'apercevoir qu'il y aura 3 ou 4 groupes et on va voir que certains ne sont pas inquiétants. Il y a les repentis, bah effectivement des gens qui effectivement modifient leur position. Je fais écho donc à la personne qui vient de dire que effectivement il a appris l'humour. C'est tout un programme. Il y a ceux qui vont se débrancher finalement, qui vont devenir plus critiques par rapport au côté absolu qui était la manière dont ils formulaient leur investissement de cet islamisme extrémiste. Il y a ceux, et là on commence à être plus inquiets, qui vont avoir une persistance de quelque chose d'inquiétant, alors qu'en façade, ils vont, de façon adaptative simplement, adoucir leur discours, mais simplement en façade. Et là, on voit un premier groupe de sujets dangereux. Et puis, effectivement, parce que ça existe, des gens qui vont revenir en France, mais qui ne vont pas critiquer d'un iota leur position antérieure et qui, pour le coup, effectivement, affirment finalement la persistance d'une certaine dangerosité.
Mais y compris au contact, y compris au contact, et y compris au contact, Roland Coutenceau, de programmes de déradicalisation, y compris, par exemple, au contact du travail que vous pouvez mener, vous, comme psychiatre.
Oui, bien sûr, mais je pense que ce qui est intéressant dans les pays qui ont tenté ces programmes, effectivement, qui sont des programmes de déprogrammation, presque, c'est qu'au fond, on va mieux apprendre à cibler les quelques facteurs de risque et les facteurs, au contraire, d'évolution favorable, de retour en arrière par rapport à un surinvestissement d'une idéologie radicale. C'est-à-dire que plus le nombre est important, plus qu'il faut la société qui est un filtre. Sauf, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure au milieu de l'émission, sauf, effectivement, si on choisit une voie répressive et on se dit, bon, ben, ils ne reviennent pas, ils perdent la nationalité. Et donc, effectivement, là, on s'en débarrasse, si j'ose dire, en ne laissant pas revenir.
David Benichou, Roland Coutonceau faisait le parallèle avec l'endoctrinement qui peut être celui des sectes. Il pourrait y avoir prochainement une initiative du Premier ministre Manuel Valls qui confierait à la Miviludes. La Miviludes, c'est la mission interministérielle de lutte contre les sectes, un plan de prévention. Moi, je voudrais avoir votre avis sur un autre parallèle qui est fait là aussi de temps en temps, qui est lié davantage au militantisme de l'ultra-gauche dans les années 60-70. On pense notamment à Fraction Armée Rouge en Allemagne ou peut-être plus encore aux Brigades Rouges. Est-ce que en tant que juge antiterroriste on envisage les choses du même point de vue, c'est-à-dire c'est du terrorisme avec des individus qui sont peut-être extrêmement politisés, manipulés et qu'il faut essayer de déprogrammer, comme dit Roland Coutonceau.
Alors autant je trouve que la métaphore avec la secte est pertinente, autant celle avec les mouvements d'extrême gauche très politisés ne l'est pas du tout. Parce que
parce qu'il y avait quand même des actes terroristes. Enfin,
C'est véritablement une autre forme de terrorisme. Parce que chez les djihadistes que nous rencontrons, le projet politique est assez indigent. Et quand on étudie les processus de conversion, on note beaucoup d'analogies avec ce qui se passe dans le domaine des sectes, c'est-à-dire un basculement rapide, la rupture de tout lien avec le milieu familial, une espèce de culte du chef. Alors le chef, ça peut être l'émir du groupe, ça peut être aussi une figure un peu plus élevée. Non, il faut pas se... Alors, d'un autre côté, il y a une vraie tendance aujourd'hui qui est préoccupante, ce serait que le djihad devienne une espèce de romantisme rebelle de la jeunesse. Et ça, on retrouve d'une certaine manière cette attraction chez des jeunes filles qui, pensant faire une sorte de fugue pour aller se marier avec un combattant, épousent la cause du djihad sans réaliser que leur finalité principale, c'est esclaves sexuels en Syrie et en Irak et revenir accoucher en France pour la suite.
Sur cette dimension romantique, Farid Abdelkrim ?
Moi, j'ai un peu de mal avec cette dimension-là. J'ai beaucoup de mal. Je me demande comment la figure de l'islamiste qui, dans l'imaginaire occidental, même à travers les films les plus saugrenus sur cette question-là, il ressemble à tout sauf à un don Juan. Donc après qu'on puisse avoir, alors je ne suis pas un spécialiste sur la question, je n'ai pas interrogé ces jeunes filles, est-ce qu'il y avait un trip de ce genre, c'est-à-dire essayer d'aller vivre un moment particulier, surtout si l'interface entre cet amour ou cette idylle, c'est juste Internet, j'ai du mal en ce qui me concerne à adhérer à cette explication.
Jean-Luc Marie, il nous reste simplement quelques secondes. Je voudrais vous citer, j'évoquais la tribune que vous avez signée dans Le Monde il y a quelques jours de cela, et parmi les phrases marquantes, il y a notamment celle-ci. On ne saura jamais si une certaine ringardisation des idées d'adhésion à la République et à la nation contribue à produire des djihadistes. On ne saura jamais si les djihadistes français ne sont pas aussi l'un des résultats les plus terribles du multiculturalisme. Vous avez quelques secondes pour commenter vos écrits.
Ça n'est pas évidemment une position de chercheur, c'est une position de citoyen et que j'ai explicitement voulu comme provocatrice. Mais ceci étant dit, quand on passe son temps depuis des années, et encore une fois, c'est le citoyen qui parle, quand on passe son temps depuis des années à exagérer les différences et à faire en sorte que être un citoyen français, un républicain, ne soit plus valorisant, mais soit simplement une sorte d'acquis routinier, on ne transforme pas cette adhésion-là en quelque chose de romantique, mais en quelque chose de banal. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Mais dire ça, ça veut dire aussi qu'il y a peut-être une forme de responsabilité collective dans ce qui arrive aujourd'hui et que si on ne réagit pas autrement que par des mesures assez ciblées de prévention, on sera toujours confronté à ce problème. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai compris.
Oui, mais en tant que citoyen, c'est exactement ce que je pense, oui. C'est exactement ce que je pense. Je pense que nous sommes en train de former, de fabriquer en France des djihadistes. Je pense que le djihadisme est maintenant une norme française, malheureusement, je le regrette. Et je pense qu'il faut faire des mesures, des projets de société à côté de ces mesures dont nous parlons.
Ouais, c'est un sujet évidemment extrêmement vaste sur lequel nous reviendrons prochainement, j'imagine, parce qu'on ne peut pas traiter à chaque fois en 40 minutes de tous les aspects de cette question. En tout cas, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à la discussion. Farid Abdelkrim, Jean-Luc Marais, David Bénichou et Roland Coutonceau. J'en profite pour remercier également nos confrères de France Bleu Orléans. Voilà, vos commentaires, c'est sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Demain, notre sujet, 8 mois après les municipales, comment va la démocratie locale ? Nous serons en compagnie de 4 maires de communes petites et moyennes.